Il est juste 3h30 en temps universel, 5h30 ici à Paris. Vous êtes bien sur Radio France Internationale.
Édouard Dupénois.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ces 30 premières minutes très largement consacrées à l'actualité africaine. La date du jour à la une de ce journal, 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme. La première du genre depuis que l'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert à 2 vaccins efficaces contre la malaria. 25 avril toujours et un demi-siècle en arrière, révolution des œillets au Portugal. Comment elle a parachevé la chute d'un empire colonial. La Banque mondiale suspend des millions de dollars de financement pour un projet touristique en Tanzanie après des enquêtes sur les traitements infligés aux populations locales. Et puis la victoire de Berkane sur l'USMA 3-0 sur tapis vert. Les Marocains avaient refusé de jouer après la confiscation de leur maillot à l'aéroport. La CAF, la Confédération africaine de foot, leur a donc donné raison.
Il aura fallu
attendre le mois de décembre pour le rapport annuel de l'OMS sur le paludisme, pour voir à quel point les chiffres de mortalité de la maladie marqueront le pas. Mais en ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre le palu, il n'est pas inutile de rappeler que le moral est à l'optimisme. Même si la malaria a tué encore 600 000 personnes dans le monde en 2022 et que 95% des victimes se trouvent sur le continent africain, il y a enfin des vaccins officiellement validés, recommandés même par l'Organisation mondiale de la santé, des vaccins qu'une vingtaine de pays du continent africain commencent d'ailleurs à déployer. Kaourou Magassa, de quoi espérer enfin une avancée très solide contre la maladie.
Il aura fallu plus de 30 ans pour développer un vaccin efficace contre le paludisme. Le premier, le RTS.S, a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé en 2021, après 2 années de tests. Depuis 2019, près de 2 millions d'enfants à risque ont bénéficié du vaccin antipaludique au Ghana, au Kenya et au Malawi, entraînant une baisse du taux de mortalité infantile liée à la maladie de 13% selon l'UNICEF. En novembre 2023, le Cameroun a lui reçu ses premières doses, mais ce n'est qu'au mois de janvier que ce pays d'Afrique centrale a été le premier à développer un programme de vaccination systématique et gratuit pour sauver des milliers d'enfants. Les enfants de moins de 5 ans sont en effet les principales victimes du paludisme et représentent 80% des décès dans le monde. Il est donc recommandé d'administrer les vaccins en nourrissons dès l'âge de 5 mois à raison de 4 doses dans les zones de transmission modérées et élevées. Selon l'organisme Gavi, l'Alliance du vaccin, une vingtaine de pays d'Afrique, et c'est déjà le cas au Burkina Faso, devraient intégrer dès cette année des programmes de vaccination dans le cadre de leur politique de lutte contre le paludisme.
Est-ce qu'on peut vraiment éradiquer ce paludisme? On se pose la question tout à l'heure dans Priorité Santé avec Caroline Paré et ses invités. Rendez-vous sur l'antenne à 9h10 en temps universel. Du mieux, mais des chiffres encore accablants. Une coalition d'ONG kenyane publie son rapport annuel sur les violences policières. Missing Voices, en français les voix disparues. Les associations qui composent ce collectif ont dénombré 118 exécutions extrajudiciaires l'année dernière. Les disparitions forcées restent également une pratique courante. Même si globalement, les chiffres de ces violences policières sont en baisse sur un an, moins 15%. Missing Voices tenait un rassemblement pour sensibiliser encore sur le problème. Gaëlle Alexis assistait.
My name is extrajudicial killing candidate.
Artistes, victimes et associations sont venus cette année encore dénoncer l'impunité de la police kényane. Penina a perdu son mari en 2013, arrêté pour une altercation lors d'une réunion familiale. C'est à l'hôpital qu'elle le retrouve le lendemain.
Il a été battu de partout, son visage était couvert de bleu. Mon mari est mort à cause d'une hémorragie interne et d'un trauma crânien. On le noyait pendant qu'on le frappait. Il a été battu par un policier qui a essayé de blâmer un autre détenu. J'ai porté plainte contre la police, c'était dur. J'ai dû être placée sous protection judiciaire. Ils essayaient de me tuer.
Selon Missing Voices, 118 cas d'exécution extrajudiciaire ont été dénombrés en 2023, 12 de moins que l'année précédente. Les disparitions forcées, quant à elles, ont diminué de moitié. Une baisse dont doute Happy Olal, le coordinateur des centres pour la justice sociale.
Je pense qu'il y a toujours des exécutions extrajudiciaires, mais que leur méthode a changé. Par exemple, la police de Nairobi utilise des gens qui tuent à sa place. Ils appellent ça la justice populaire. Ce n'est pas comptabilisé comme des exécutions extrajudiciaires, puisque c'est la foule. Chaque gouvernement a ses propres policiers tueurs et sa propre stratégie. C'est la criminalisation de la pauvreté.
Selon le rapport de Missing Voices, malgré toutes les affaires d'exécution extrajudiciaire rapportées l'année dernière, seuls 5 policiers ont été arrêtés. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
La République démocratique du Congo accuse le groupe Apple d'utiliser dans ses produits des minerais exploiter illégalement, je cite, des minerais qui proviendraient de mines congolaises au sein desquelles de nombreux droits humains sont violés. Selon plusieurs avocats mandatés par l'État de République démocratique du Congo, ces minerais seraient ensuite transportés hors du Congo, notamment vers le Rwanda où ils seraient blanchis. Il s'agit formellement d'une mise en demeure qui a été adressée cette semaine aux deux filiales d'Apple en France par les avocats William Bourdon et Vincent Brengars. Les mines, toujours, et ce géant du nickel, cette fois face à la colère d'exploitants agricoles. Le réseau MALN, qui regroupe des journalistes d'investigation à Madagascar, dévoile sa dernière enquête. Elle prend la forme d'un documentaire, Le développement opaque d'Ambatouvi. Ce film raconte comment des communautés locales implantées sur les zones d'extraction du nickel ont vu leurs conditions de vie se dégrader au fil des années. Comment ces communautés dénoncent aussi le rôle supposé du géant du nickel dans cette dégradation. Et comment Sarah Teto, elle continue à se battre.
Malheureux, dit-il, mais certainement pas résigné. Richard Analarson, cultivateur, porte la voix de 29 familles flouées, estime-t-elle, par le mini Ambatouvi.
Cela faisait plus de 3 générations que nous étions sur ces terres et on nous a demandé de les quitter en échange d'autres terres. On a signé un contrat, mais les responsables d'Ambatouvi n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils ont négligé notre relocalisation. Les parcelles ne sont pas fertiles et cela nous cause de grosses pertes. Nous voulons qu'Ambatouvi nous offre un terrain plus fertile. Cela fait 8 ans qu'on n'a tiré aucun bénéfices par rapport au terrain. On demande aussi une compensation pour ces 8 années de pertes.
Présents lors de la diffusion du reportage, les responsables d'Ambatouvi ont décliné notre demande d'interview. Ils estiment avoir offert des compensations justes à la population. Interrogé, l'ONE, l'Office national pour l'environnement, dont l'un des rôles est de suivre les accords de prise en charge et de dédommagement pour éviter entre autres les impacts sur la population, réfute de son côté toute défaillance. Tilavne Rabefari est le chef d'unité du suivi de l'intégration de la durabilité environnementale.
C'est pas qu'on décline notre responsabilité, mais ce n'est pas l'ONU qui va donner des terres aux gens. Hein. On fait notre travail. Donc on réagit par faire savoir déjà la plainte au promoteur. Et c'est le promoteur qui cherche à résoudre le problème.
Une situation qui suscite une nouvelle fois des interrogations quant aux responsabilités des pouvoirs publics en matière de développement et de défense des droits des Malagas. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Des communautés locales menacées également en Tanzanie et la Banque mondiale qui semble enfin s'emparer de la question. L'institution suspend ses 150 millions de dollars de financement pour l'agrandissement d'un parc national. Un organisme américain révèle que les gardes forestiers se livrent à de graves exactions sur les populations locales, Alexis Bédu.
Le projet d'extension du parc national de Ruaha est mis entre parenthèses. L'Oakland Institute, basé en Californie, a alerté la Banque mondiale depuis plusieurs mois sur les exactions commises par des gardes forestiers. Au moins 12 disparitions, de multiples agressions sexuelles contre des femmes, des saisies de bétail aux agriculteurs locaux ont été documentées par l'organisme américain, très critique jusqu'alors à l'encontre de la Banque mondiale, accusée de fermer les yeux. Le projet a débuté il y a 7 ans, il impacte des dizaines de milliers de villageois selon l'Oakland Institute, qui assure même dans son rapport que l'objectif du gouvernement tanzanien est d'expulser à terme près de 20 000 personnes habitant aux alentours du parc national. Le tourisme est une manne très importante pour le pays, hausse des arrivées de l'étranger de 24% l'année dernière. Le gouvernement en a fait son fer de lance, multipliant les extensions de parcs naturels, travaillant à la diversification du secteur. La décision de la Banque mondiale somme donc comme un sérieux coup de semonce pour le pouvoir tanzanien.
Alexis Bédu à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 6h39 à Dodoma, 3h39 en temps universel. On en vient à ce coup d'État au Portugal. Et au début de cette ère décoloniale, autre anniversaire ce 25 avril, celui de la révolution dite des œillets. Il y a 50 ans, avril 74, un coup d'État militaire allait renverser António de Oliveira Salazar. Le séisme qui ébranle alors ce pays de l'ouest de l'Europe aura bien sûr des répercussions sur les colonies portugaises en Afrique. qui menait de lourdes guerres d'indépendance. À l'époque, Joachim Chissano n'était pas encore président. Il combattait dans les rangs du Frelimo, mouvement pour l'indépendance du Mozambique. Il se souvient de la manière dont il a appris ce coup d'État et cette révolution.
Nous avons appris des nouvelles du coup d'État en Portugal à travers la radio. Moi, personnellement, et d'autres compagnons, nous étions au camp d'entraînement politico-militaire de Frelimo en Tanzanie. Et nous avons compris que c'était un coup d'État qui pourrait éventuellement avoir des manœuvres des gens qui ne voulaient pas l'indépendance de Mozambique, mais qui voulaient jouer d'autre façon une décolonisation qui n'était pas celle que nous souhaitions. Mais en même temps, nous avons compris que c'était à cause des forces armées qui étaient fatiguées de cette guerre. Donc, nous avons pris l'attitude que le coup d'État serait déjà de la fin, peut-être du fascisme, mais nous ne pourrions pas assumer que c'était la fin du colonialisme. Donc il fallait continuer la lutte jusqu'à ce qu'on ait les conditions pour avoir notre indépendance.
Joachim Chissano, devenu par la suite président mozambicain, propos recueilli par Liliana Henriquez de la rédaction Lusophone de RFI. Front commun contre les informations bidons, comment les journalistes et les organisations civiles centrafricaines se mobilisent contre la désinformation. Tout le monde part d'abord du constat que, depuis peu ou prou 7 ans, les fake news explosent sur les réseaux sociaux et que les internautes n'ont pas les armes pour les débusquer. Résultat, beaucoup sont prêts à prendre pour argent comptant des informations complètement fausses et à réagir en conséquence. D'où ces parades que tentent de mettre en place des titres de presse et des acteurs civils et que nous raconte Rolf Steph Domialeux.
Dans une période marquée par des tensions entre le pouvoir et l'opposition, des crises socio-économiques et sécuritaires, la désinformation est devenue omniprésente en RCA. Arsène Mosseyavo est le directeur de publication du journal Les Autres Nouvelles de Centrafrique.
À partir des années 2017 jusqu'à nos jours, on assiste à une flambée de désinformation. Pour essayer de nuire à certains hommes politiques, il fallait raconter des histoires pour essayer de freiner leur avancée dans l'espace politique, surtout en période électorale.
Problème, le public centrafricain n'est parfois pas suffisamment averti. Les polémiques et la désinformation peuvent donc alimenter les conflits, selon Junior Bouté, secrétaire général du consortium des journalistes pour la lutte contre la désinformation.
La couche sociale est déchirée par rapport à la désinformation. Les hommes politiques manipulent la jeunesse à leur propre guise. La désinformation peut diviser la communauté.
Ces fausses informations sont massivement relayées sur les réseaux sociaux, explique Arsène Mosseyavo, et elles sont un danger pour la société centrafricaine.
Surtout avec la manipulation maintenant de l'Internet, surtout sur le réseau social Facebook. Il y a aussi des groupes qui sont créés au niveau des plateformes WhatsApp en Centrafrique, où vous voyez des communicants qui sont de l'opposition ou bien du pouvoir en place, qui essayent de s'en prendre entre eux pour leurs propres intérêts.
Pour lutter contre la circulation des fausses informations, plusieurs cellules de veille ont été créées ces dernières années par des journalistes, des acteurs de la société civile et des chercheurs. Rolf Steph Domialeux, Bangui, RFI.
La renaissance de Berkane remporte une première manche dans son bras de fer avec l'USM Alger. Les Marocains avaient refusé de jouer leur demi-finale de la Coupe de la Confédération dimanche dernier. Ils reprochaient aux autorités algériennes de leur avoir confisqué leur maillot en arrivant dans le pays. Maillot sur lequel figure une carte du Maroc qui inclut le Sahara occidental. Cédric de Oliveira, la CAF, estime que Berkane était bien dans son droit en refusant de jouer le match.
3 jours d'attente et finalement cette décision en faveur de la renaissance de Berkane. Le club marocain sort vainqueur de cet imbroglio avec l'USM Alger depuis cette demi-finale allée de la Coupe de la Confédération qui aurait dû avoir lieu dimanche. Pour rappel, la RSB ne s'est pas présentée au coup d'envoi de la rencontre, mais ses dirigeants ont expliqué leur geste par l'attitude des autorités algériennes qui ont confisqué les maillots de Berkane à l'arrivée de la délégation à l'aéroport d'Alger. Les maillots de la discorde où apparaît une carte du Maroc incluant le Sahara occidental, un territoire revendiqué par le royaume alors que l'Algérie soutient les indépendantistes du Front Polisario, un sujet sensible qui cristallise les tensions entre les deux pays depuis un demi-siècle. Sans leurs maillots, les Marocains ont décidé de ne pas jouer et la CAF a donc estimé qu'ils étaient dans leur droit sur le plan sportif. Ils ont donc gagné ce match 3-0 sur tapis vert. Il reste à l'USMA, si elle conteste la décision de l'instance, la possibilité de faire appel, voire éventuellement de saisir le tribunal arbitral du sport. Pour l'instant, les deux clubs sont censés jouer la demi-finale retour de cette Coupe de la Confédération dimanche à Berkane.
Cédric De Oliveira, toute l'actualité sportive revient dans une heure avec Antoine Grenier.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenois.
3h45 en temps universel, on poursuit deux séries dans cet acte 2 d'Afrique Matin. Nos reportages en Afrique du Sud, 30 ans après les premières élections démocratiques. Et la conférence mondiale sur le cacao de Bruxelles, comment plusieurs producteurs africains hors Côte d'Ivoire et Ghana se mettent sur les rangs pour profiter des prix stratosphériques de la fève. Les matières premières, la Libye reprend sa place de première productrice africaine de pétrole. Et puis notre rendez-vous dans une dizaine de minutes avec les journalistes de la première. 30 ans après les premières élections libres en Afrique du Sud, on continue donc notre série de reportages dans la nation arc-en-ciel pour voir ce qu'il reste de cet avènement de la démocratie et de la fin de l'apartheid. En 94, en arrivant au pouvoir, l'ANC lançait un immense programme de reconstruction et de développement dont la partie la plus visible reste les maisons RDP. Ce sont des logements qui ont poussé comme des champignons et qui étaient destinés aux populations maintenues dans la pauvreté sous le régime de l'apartheid. Même si les autorités ont été submergées sous les demandes et que ces logements n'ont pas toujours tenu toutes leurs promesses, ils demeurent une composante incontournable du paysage sud-africain. Reportage et visite avec Claire Bargelès.
Selon les chiffres officiels, il existe désormais près de 3 millions de ces maisons RDP. Mais leur qualité ou leur taille ont pu décevoir, alors que le gouvernement s'est vite fait dépasser par la demande. C'est l'eau, au chômage, a hérité du vieux logement social de sa mère décédée, une habitation qui n'a jamais été terminée.
Vous voyez, c'est à moitié fini avec la chambre. Les briques s'arrêtent là. Ils ont juste construit une chambre et des toilettes. Si on a l'argent, on peut finir. Mais à l'époque, ma mère n'avait pas de travail. Donc on a complété avec de la tôle et du carton ici pour protéger de la pluie et du vent. Quand il pleut, l'eau rentre quand même. C'est tout mouillé par là.
Si un foyer gagne moins de 170 euros par mois, il peut en théorie devenir propriétaire d'une de ces maisons RDP de façon gratuite et aura le droit de la revendre au bout de 8 ans. Mais par exemple, dans la région autour de Johannesburg, il existe, selon les autorités, une liste d'attente de plus d'un million de personnes. Lassée de patienter, Morgane, la cinquantaine, a fini par construire illégalement une maison en tôle sur un terrain vide.
J'avais bien déposé un dossier il y a au moins 15 ans et j'attends toujours. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis construit cet abri, alors ça va. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne respectent pas leurs promesses. Il vaut mieux ne rien promettre du tout plutôt que de faire des promesses en l'air. Maintenant, on demande des terres et on construira nos propres logements et je pense que ce sera mieux.
À d'autres endroits, ce sont des projets de maisons RDP en cours de construction qui ont été occupés de force. Le programme a donc connu des ratés, mais cela reste une politique généreuse et ambitieuse pour Johan Fourie, professeur d'économie à l'université de Stellenbosch.
On peut saluer le gouvernement pour avoir voulu aider le plus de gens possible avec des contraintes budgétaires et des limites aux capacités à construire rapidement. Il y a certes des critiques autour de la façon dont cela a été fait. Souvent, ces maisons RDP sont en périphérie des villes et les gens doivent ensuite dépenser beaucoup en transport pour aller travailler ou faire des courses. Ça les a placés dans une sorte de piège. Aujourd'hui, on peut se dire que le gouvernement aurait dû faire ceci ou cela, mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque cela aurait été possible ou envisageable.
Des limites dont Cyril Ramaphosa a en tout cas bien conscience, puisqu'il a récemment promis vouloir s'assurer que les logements sociaux soient situés plus près des emplois et des services. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Série de reportages en Afrique du Sud que vous réécoutez sur RFI.fr et sur notre application mobile RFI Pure Radio. Dans une minute, le dossier Afrique Économie. Avant cela, les grands titres de l'actualité internationale de ce 25 avril 2024. Israël d'abord, qui indique avoir lancé, je cite, une action offensive sur le sud du Liban. L'artillerie israélienne y a frappé une quarantaine de cibles du Hezbollah et des troupes sont déployées en nombre à la frontière. C'est ce que dit le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Israël toujours qui dit avancer aussi dans ses préparatifs pour une opération terrestre sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon des responsables égyptiens cités par le Wall Street Journal, Israël se prépare à déplacer les civils de Rafah vers notamment la ville de Khan Younes. Hier, par ailleurs, la Maison-Blanche a exigé des réponses sur les fosses communes découvertes dans les deux principaux hôpitaux de ces villes, Al-Shifa à Gaza et Nasser à Khan Younes. L'ONU réclame une enquête internationale. Joe Biden promulgue le vaste plan de 61 milliards de dollars d'aide militaire et économique à l'Ukraine. L'assistance militaire américaine interrompue depuis plusieurs semaines va reprendre dans les prochaines heures, selon le président américain. Les États-Unis ont l'intention notamment de livrer des missiles longue portée de type ATAC-MS, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs très discrètement ces dernières semaines. Et puis le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui dit réfléchir à sa démission, annonce surprise après l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et de corruption. Le chef du gouvernement espagnol, au pouvoir depuis 2018, précise qu'il annoncerait son éventuelle sa décision lundi prochain. Cameroun, Nigeria, République démocratique du Congo, qui sont les pays sur les rangs pour profiter de l'explosion des cours du cacao? Alors qu'on est encore ce matin à plus de 11 000 dollars la tonne, plusieurs pays du continent se mettent en ordre de bataille pour profiter de ces prix. La Côte d'Ivoire et le Ghana, principaux producteurs mondiaux, souffrent cette année d'une récolte plutôt faible. Et les autres producteurs voient donc débarquer des industriels en mal de fèves. Claire Fage était à Bruxelles pour la conférence mondiale sur le cacao.
Plafonné à 1 000 puis 1 500 francs CFA en Côte d'Ivoire, ou leur équivalent au Ghana, le kilo de cacao s'est vendu plus de 5 100 francs CFA, soit plus de 8 dollars au Cameroun, le troisième producteur africain. Omer Malédi, le secrétaire exécutif des professionnels du café et du cacao du Cameroun, se réjouit que les planteurs de son pays tirent actuellement pleinement profit de leur système libéralisé après des années difficiles.
Au Cameroun, la commercialisation est libre, elle est directe, il y a peu d'intermédiaires et le producteur camerounais informé des cours du cacao quotidiennement fait son marché, il fait au mieux pour gagner plus. Donc ils sont très contents actuellement que les cours sont élevés. On souhaite que ça dure, qu'ils gagnent bien et qu'ils gagnent longtemps, parce qu'il y a à peine plus d'un an, on était encore au plus bas des cours. Ben, s'ils peuvent être élevés, qu'ils le soient le plus longtemps possible.
Quatrième producteur africain, le Nigeria est très sollicité ces derniers mois. Un intermédiaire présent à Bruxelles pour la conférence mondiale du cacao compte vendre 30% de fèves supplémentaires cette année aux négociants Olam et Sunbet. Immense pays mais encore petit dans le cacao, la République démocratique du Congo n'en voit pas moins affluer plein de nouveaux acheteurs en mal de fèves, constate Séraphine Toumba, qui appuie les producteurs de cacao de la région du Maïndombé et du Congo central, dans l'ouest de la RDC pour l'ONG Trias.
De plus en plus, il y a des acheteurs qui n'étaient pas présents en RDC avant, mais qui commencent à venir. Et donc, on a maintenant l'opportunité de présenter la bonne qualité qui est aussi produite en RDC, mais aussi de bénéficier aussi des prix qui augmentent.
Le kilo de fèves qui rapportait au maximum 2,50 $ aux producteurs de ces coopératives congolaises l'an dernier a plus que doublé et l'intégralité de leurs 200 tonnes a été vendue.
Les coopératives qu'on accompagne ont la facilité maintenant d'écouler leurs produits à temps. Et donc ça ne traîne plus dans les dépôts, c'est acheté directement, même avant même d'être produit.
Le dernier lot partant ce mois-ci, les acheteurs de cacao auprès de ces coopératives congolaises devront désormais attendre les fèves de la récolte principale à partir d'août et septembre prochain. Claire Fage, de retour de Bruxelles, RFI.
La suite de ces dossiers Afrique Éco sur dans le nord-ouest de Madagascar, demain, même heure, même antenne. Si l'on dit du cacao qu'il représente l'or brun, voilà qu'il est question d'or noir dans la chronique des matières premières. Avec une première place toute symbolique et qui se joue à une poignée de barils, la Libye redevient la première productrice de pétrole sur le continent africain. Les grandes majors semblent prêtes à se réinstaller les unes après les autres, Arthur Ponchelet.
Près de 50 milliards de barils de pétrole se cachent dans le sous-sol libyen, faisant du pays la 10e réserve d'or noir au monde. Historiquement, la Libye est un gros producteur. Avant la guerre civile de 2011, Tripoli produisait ainsi plus d'1,5 million de barils de brut par jour. Mais avec les différentes crises qui ont secoué le pays, le secteur des hydrocarbures, qui représente pourtant la quasi-totalité des revenus fiscaux du pays, a souffert. La production était même passée sous la barre du 1 million de barils quotidiens. D'autant que le contexte sécuritaire a freiné les investissements et fait fuir plusieurs groupes pétroliers étrangers. Mais depuis, le temps a passé et le secteur retrouve des couleurs. Dans son dernier rapport, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, estime la production libyenne à 1,240,000 barils de brut par jour sur le mois de mars. Pour un petit millier de barils, la Libye détrône donc le Nigeria et devient le premier premiers producteurs de brut du continent. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts de la part du gouvernement libyen pour augmenter l'extraction d'or noir, car il a fallu faire revenir les grandes entreprises d'hydrocarbures. En décembre 2022, la compagnie nationale libyenne avait appelé les sociétés pétrolières étrangères à lever l'état de force majeure en raison, je cite, de l'amélioration de la situation sécuritaire. L'italien Eni ou le britannique BP ont depuis fait leur retour. En novembre dernier, c'était au tour de la Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, d'annoncer exploiter à nouveau du pétrole en Libye. Si l'industrie pétrolière est en bonne santé en Libye, au Nigeria, la situation est plus compliquée. Selon l'OPEP, la production a baissé d'un peu plus de 5% au mois de mars. Insécurité, corruption, les problèmes structurels s'accumulent pour Lagos, qui doit ainsi céder sa première place.
Arthur Ponchelet pour l'actualité des matières premières. Dans 5 minutes, le début de RFI Matin et le journal international. Avant cela, l'actualité dans les territoires français de l'océan Indien. Le Conseil des ministres ne s'emparera pas avant le mois de juillet du projet dit de loi Mayotte. Il devait pourtant être à l'agenda dans un mois. Toute la question étant de savoir qui a décidé de ce report. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Un report, selon la ministre déléguée en charge des Outre-mer, Marie Guévenoux, à la demande des élus maorais qui pourront ainsi consulter les textes et éventuellement les ajuster ou les modifier. Problème, certains de ces élus protestent et affirment qu'à leur connaissance, ils n'ont rien demandé du tout et surtout pas de retarder les projets de loi en question. C'est le cas, notamment, vous allez les entendre, de Salim Mdere, premier vice-président du conseil départemental, et des conseillers Daniel Zaïdani et Soula Saïd Soufou.
Alors non, c'est pas les élus qui ont demandé le report de cette date qui a été bien annoncée par le gouvernement lui-même quand ils sont venus à plusieurs reprises ici. Mais il est vrai que quand Madame Guévenoux est passée à Mayotte la dernière fois, et comme ils se sont rendus compte là-bas qu'ils n'avaient pas fait le nécessaire, le sujet a été posé sur table dans le bureau du président et ils nous ont demandé à ce qu'on essaye de reporter ce délai à une date ultérieure. Mais nous, c'est pas les élus du conseil départemental et encore moins les maires qui ont demandé à ce que ça soit reporté. Il n'y a pas mort d'homme. Les Maorais sont résilients encore une fois et les élus de Mayotte sont vigilants.
Le conseil départemental a proposé dès le mois de septembre 2023 un document avec 120 propositions pour étayer la future loi de Mayotte. Je ne pense pas que s'il y a retard, cela provient du conseil départemental, puisque nous avons déjà fait nos propositions.
Moi, je trouve que le report de la présentation au conseil des ministres de ces deux projets de loi est une trahison très concrète vis-à-vis des Mahorais, vis-à-vis des forces vives, vis-à-vis de toutes les personnes qui s'intéressent à l'avenir de Mayotte, car cet agenda a été arrêté par le gouvernement.
À l'île de la Réunion, la bombe sociale a explosé. C'est sous ce titre volontairement provocateur que la Fondation Abbé Pierre expose, dans son dernier rapport consacré au mal-logement dans le département, une situation pas vraiment reluisante, 2 Réunionnais sur 5 touchés et qui n'irait pas du tout en s'améliorant. Olivier de la Richaudie.
Au mois de janvier, sur les 4 victimes du cyclone Belal, 3 étaient sans domicile fixe. Ces drames témoignent du niveau d'exclusion des plus fragiles de notre département, selon la Fondation Abbé Pierre. Elle observe d'ailleurs une saturation des hébergements d'urgence, près de 60 000 appels au 115 l'an passé, soit une hausse de 72% des demandes par rapport à 2020. Les demandes de logements sociaux continuent elles aussi d'augmenter avec un nombre de constructions divisé par 4 en 4 ans. Certes, il y a l'inflation du prix du foncier et de la construction, mais ce n'est pas la seule raison. Dans ce rapport, la réticence des municipalités à densifier le parc social est pointée du doigt. Ainsi, 5 000 logements financés attendent un permis de construire. Dans le même temps, des maisons et des appartements restent désespérément vides. Ces 34 000 logements vacants pourraient pourtant trouver preneur en incitant financièrement leurs propriétaires. C'est l'une des solutions proposées par la Fondation Abbé Pierre. Elle encourage aussi l'encadrement des loyers sur le littoral ouest, à Saint-Denis et à Saint-Pierre.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée à vous, Benoît Ferrand. C'est la fin aussi de cette première édition africaine. Pour laisser la place à Arnaud Pontus pour le début des RFI Matin. Bonjour Arnaud.
Bonjour, rassurez-moi Edouard, vous revenez.
Ah, je reviens tout à l'heure, c'est promis.
Ah ben, les auditeurs sont rassurés, moi avec.
tout à l'heure.
Edouard Dupénois avec nous et toute la rédaction. C'est jusqu'à 10h RFI Matin, bien sûr. On reste ensemble pour évoquer notamment, hein, parmi bien d'autres sujets, les 50 ans de la révolution des œillets. C'était le 25 avril 1974, la dictature tombée au Portugal et l'Afrique y est pour quelque chose.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
40 ans auprès des plus grands metteurs en scène de théâtre et la comédienne Valérie Dréville écrit un témoignage intitulé « L'art du débutant ». Elle raconte ce qu'elle a appris, comment chaque rôle est une découverte, comment la parole doit naître sur scène comme si c'était la première fois.
De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h31 sur RFI.